France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien le directeur de l'IEP Lille, de Lille, professeur de sciences politiques. Vos questions, amis auditeurs, dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Pierre Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro d'Inter ce matin. En 2018, vous avez remis au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, un rapport, je cite, sur un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles, rapport qui a inspiré le projet de réforme du lycée et donc du bac. En quelques mots pour commencer, dites-nous comment le professeur de sciences politiques a analysé ce qui s'est passé depuis qu'il a rendu ses conclusions. Mission, rapport, publication, débat politique et médiatique, doute, critique, entrée en application, grève aujourd'hui. Votre regard sur tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes venu ici au micro de France Inter nous présenter le fruit de votre travail.
L'analyse très simple, c'est de dire que décider déjà en soi, c'est difficile. Hein, et c'était donc il y a un peu plus d'un an quand j'étais venu ici. Et puis une fois qu'on a décidé, ce qui est déjà difficile, il faut mettre en œuvre. Et la mise en œuvre, quelle que soit la décision que l'on prend, quel que soit le secteur d'action publique qui est concerné, cette décision, elle est très complexe à mettre en œuvre. Elle mobilise des acteurs contre, elle a des dimensions techniques qu'on n'avait pas nécessairement pensé au départ. Voilà. Donc ce que je dis à mes étudiants, c'est que décider, c'est compliqué. Parfois, ne pas décider, c'est plus facile. Et puis ensuite, quand on a décidé, c'est le début des ennuis. Ce qu'il faut mettre en œuvre.
Oui, aujourd'hui.
Mais oui.
Je vois sur regard.
Je ne sais pas si vous aviez prévu la grève enseignante aujourd'hui.
La grève des enseignants. On va trouver aujourd'hui journée de grève, mobilisation de nouveau des enseignants très remontés contre le ministre Blanquer. Dans la mise en œuvre, il y a aussi quand même cette réforme du lycée. Dans la mise en œuvre, qu'est-ce qui ne passe pas, à votre avis? Comment vous regardez ça?
Alors, c'est une grève de la fonction publique. Et puis, parmi les enseignants, il y a pour partie les enseignants de lycée. Une minorité des enseignants de lycée, et puis il y a aussi d'autres motifs, notamment à l'école primaire, on en parlera peut-être plus loin. Oui, je pense que d'abord la grève est un droit constitutionnel, donc c'est tout à fait normal que des personnes mécontentes utilisent la grève pour exprimer un malaise ou un mécontentement. Ça ne me choque pas du tout, et ça ne me choque pas du tout non plus qu'il y ait des mécontentements par rapport à la mise en œuvre de cette réforme, parce que c'est une réforme qui est très lourde, qui est structurelle, qui concerne le lycée, qui n'avait pas été réformé avec cette ampleur de réforme depuis, allez, un demi-siècle. Donc on est dans un secteur qui est très routinisé, hein, le mot n'est pas péjoratif, et donc il est complètement normal dès lors que la réforme est ambitieuse, qu'elle modifie largement les choses, qu'une partie des personnes concernées manifeste un mécontentement, des craintes. Moi ça ne me choque absolument pas.
Alors on entre dans le vif du sujet. Les élèves de seconde de cette année inaugurent le nouveau système, le nouveau lycée, d'ici un mois. En substance, ils devront avoir choisi 3 spécialités. Art, biologie, écologie, sciences économiques et sociales, j'en cite 3, il y en a 12. Comprenez-vous l'inquiétude que suscite ce moment où il faut se déterminer, le sentiment d'être parfois trop jeune pour trancher?
Oui, alors, 2 choses. Un, on focalise sur le choix des spécialités, alors que la réforme, c'est loin d'être que ça. Il y a le tronc commun, il y a plein de choses, il y a les nouvelles épreuves du bac. Donc, je suis d'accord pour dire qu'on focalise là-dessus.
Commençons par le commencement. Voilà. Il faut choisir.
Voilà, il faut choisir. Il fallait choisir dans le bac d'avant. C'est-à-dire qu'il fallait choisir entre, par exemple, si on se focalise sur le bac général, hein, puisqu'il y a aussi le bac techno, il y a le bac professionnel qui sont réformés. On en parle très peu, hein, je le signale au passage. Sur le bac général, les 3 fameuses séries qui disparaissent, qui sont remplacées par des choix de spécialités. Dans la période précédente, les élèves en seconde avaient à choisir entre 3 séries du bac, et pour partie, leur demande n'était pas acceptée par le conseil de classe. Donc il y avait déjà des formes de choix qui engageaient quand même pour partie les élèves.
Et alors on a l'impression qu'il y a encore plus de choix.
Bah oui, alors il y a probablement plus de choix, bien entendu, puisqu'il y a 7 ou 8 en moyenne, jusqu'à 12 selon la taille des lycées. Donc bien sûr que pour les élèves, leurs parents, les profs, ça donne l'impression que ces choix peuvent être des choix définitifs qui engagent leur vie entière. Je rappelle que quand même, que quand on allait en série L, par exemple, on demandait la série L, on faisait déjà des choix qui avaient pour conséquence, par exemple, de ne pas pouvoir envisager tel ou tel cursus dans l'enseignement supérieur.
Donc vous dites que ça change pas grand-chose par rapport à ce qui existait avant. Bah, avant, il fallait faire des choix, et ces choix n'étaient pas réversibles.
Si, enfin, réversible. Marginalement, un élève, dans le cadre de son lycée, pouvait demander à la fin de la première à passer de S en ES, de S en L. C'était plus compliqué dans l'autre sens, c'est tout à fait clair, mais ça existait déjà. Ça existera encore, probablement de manière très marginale, mais ça existera encore.
Jean-Michel Blanquer, justement, disait à ce micro en mars dernier que le choix n'était pas définitif, que ça pouvait être réversible, mais finalement, quand on a choisi biologie, écologie, comment est-ce qu'on va rattraper une année de cours pour passer en art?
Alors, biologie, écologie, vous avez choisi pas très bon exemple parce que c'est surtout dans les lycées agricoles, donc il y aura très peu d'élèves qui prendront biologie, écologie. On va dire, quelqu'un qui a choisi, qui n'a pas choisi SES, par exemple, en première, qui voudrait
sciences économiques et sociales, ok.
Bah, écoutez, pour le coup, ça va être extrêmement marginal, comme il était marginal actuellement de passer de S en L, très marginal. Ça se passera au niveau des lycées. Et si un lycée l'accepte, on peut imaginer que l'élève bénéficiera d'une forme d'accompagnement pour lui permettre d'atterrir sans se cracher. Mais c'est très marginal. On est en train, là, vous voyez, je pense pas qu'il faille entrer dans la réforme par des exemples qui vont être extraordinairement marginaux dans le système.
Alors, prenons ce qui est massif maintenant, Pierre Mathiot, pour sans doute aussi se laisser le maximum de portes ouvertes au moment où on inaugure cette nouvelle maquette pour le lycée. 70% des élèves, c'est des chiffres ministères et SNES, 70% des élèves choisissent un jeu de spécialité qui reconstitue l'ancienne filière S. Alors, à quoi, vous allez pouvoir me corriger s'il le faut, à quoi ça sert de tout changer pour que la filière S se reconstitue sous une autre forme et un autre nom, mais continue à être la filière reine?
Alors, soyons précis, en fait, vous vous êtes trompé, mais c'est pas de votre faute. C'est-à-dire que environ 70% des élèves ont fait un vœu pour avoir des mathématiques en première. C'est pas pareil. En fait, 51% des élèves ont actuellement, on va voir fin juin, comme vous l'avez dit au début, ont fait des vœux qui ressemblent à la reconstitution des séries qui existaient. 51%. C'est pas si étonnant que ça. On est à la première année de mise en œuvre de la réforme. On a tendance à regarder ce qui se passait dans le système précédent pour se repérer dans le nouveau système. Moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, je regarderais plutôt le verre à moitié plein de dire que 48% des élèves ont fait des vœux de spécialité qui cassent le système des séries antérieures. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ensuite, le chiffre des maths, 70-71% des élèves ont fait un vœu de maths. Dans le système actuel, si on additionnait S et ES dans lesquels on fait des maths, c'est 87% des élèves. D'accord, donc ça veut dire que les maths, y a moins d'élèves qui ont demandé maths, donc je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que on demande moins les maths pour faire autre chose, comme c'était le cas aujourd'hui en ES, on demande les maths parce qu'on a envie de faire des maths. Moi voilà, je pense que effectivement, si on est contre la réforme, on va dire regardez les séries se reconstituer. Je pense moi.
Mais n'est-ce pas un petit peu vrai, être contre la réforme,
alors, c'est
hein.
Vrai. 51% des élèves ont fait des vœux de trois spécialités qui ressemblent aux séries S, ES et L actuelles. Donc, de ce point de vue-là, ok. C'est la première année.
À quoi ça servait alors, Pierre Mathiot?
C'est un peu normal quand, quand on est passé, je prends toujours cet exemple-là, du franc à l'euro, on a continué à compter en francs. Donc, c'est un peu normal qu'une partie des usagers du système fasse cela. Moi, je regarde l'autre côté. C'est qu'il y a 48% des élèves qui font des vœux qui cassent la logique des séries. Dès la première année, que 48% des élèves fassent des vœux qui cassent la logique des séries, alors que ça fait 50 ans qu'on fonctionne sur un système de séries, ça me paraît plutôt être une bonne nouvelle.
Alors, vous choisissez ce matin de regarder le verre à moitié plein. Alors, que pensez-vous de tous les jeux d'options? Ils ne sont pas possibles dans tous les établissements de France. Dans certains cas, il faut se reporter sur des lycées du voisinage. Mais alors là, c'est seulement s'il y a des places. Est-ce que ça n'est pas un problème majeur?
Là encore, 5% seulement des vœux exprimés par les élèves actuellement pourraient les amener à devoir changer de lycée si jamais ils voulaient vraiment suivre ces spécialités-là, sans compter la possibilité, surtout en zones urbaines, que les élèves aillent faire la spécialité dans le lycée d'à côté.
5%, si et seulement si, il reste de la place.
Oui, 5%, donc on est encore une fois sur les marges. Alors vous allez me dire, les marges, parfois, ça devient le noyau du système, mais c'est assez marginal en réalité. Après, vous avez complètement raison, dans un lycée où il y a 7 spécialités, théoriquement, ça fait 200 possibilités. De vœux, hein. Théoriquement, on sait très très bien empiriquement, moi j'ai fait pas mal de visites dans des lycées, que le nombre de vœux d'élèves c'est autour de, il y a 12 ou 13 triplettes si vous voulez qui sont demandées par les élèves. Donc après ça appartient aux proviseurs d'essayer d'organiser cela, et comme dans le système précédent, il arrivait que des élèves demandent une option qu'ils étaient les seuls à demander, qui perturbait les emplois du temps, et il y avait des interactions qui se passaient avec les élèves et les parents pour essayer de gérer ça. Ça va se gérer, je pense, comme ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une régionalisation de l'offre? C'est-à-dire ça dépend de ce que les lycées autour de l'enfant et de ses familles proposent. Est-ce que du coup le bac n'en devient pas moins national?
Non,
le
lycée, là vous parlez du lycée, pas du bac, mais aujourd'hui dans le système actuel, reprenons les chiffres, 84% des lycées d'enseignement général proposent les trois séries. Vous voyez, on n'est pas à 100% qui proposent les trois séries. Avec la réforme, 92% des lycées vont proposer les 7 spécialités de base. Donc là encore, vous voyez, évidemment, dans un lycée, je suis sûr qu'on va avoir des appels téléphoniques pour dire dans mon lycée, telle spécialité n'était pas proposée. Évidemment, quand on regarde établissement par établissement, il est sûr que dans certains endroits, l'offre change. Mais globalement, au total, l'offre se diffuse un peu plus qu'elle n'existait actuellement.
Et pour finir sur ce thème de la régionalisation, alors, quid des notations? Il y aura 40% de la note au baccalauréat qui va être composée du contrôle continu. On sait bien que dans certains départements, dans certains lycées, on note tout à fait différemment d'autres. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de régionalisation du bac?
Vous venez de dire que dans le système actuel, si vous avez bien compris, on note différemment d'un lycée à un autre. Et dans le cas de Parcoursup, comme les dossiers ne sont pas, anonymes...
Non, mais ça s'aggrave avec le contrôle continu.
Mais non, parce que justement, le problème du contrôle continu... Alors là, vous auriez eu raison si le ministre avait complètement suivi mon rapport. Parce que moi, dans le rapport, je disais, la partie du contrôle continu, on fait confiance au lycée pour l'organiser parce que ça leur donne beaucoup de souplesse dans la réforme. On a eu une coalition assez intéressante, d'ailleurs, les syndicats de parents, de profs, de proviseurs, de lycéens, qui ont dit si c'est ça, ce contrôle continu laissé à la main des lycées, ça va remettre en cause le caractère national du bac. Donc, résultat des courses, on a mis en place un contrôle continu qui va être assez exigeant en termes d'organisation et on prend les paris dans 3 mois ou 4 mois, les organisations syndicales vont dire, regardez, c'est le bazar, c'est horriblement compliqué à organiser. Donc non, je pense pas. Et aujourd'hui, encore une fois, dans le bac actuel, les TPE, l'oral de langue, le sport, sont passés dans le lycée de manière absolument pas anonyme.
Allez, on va se tourner vers le standard dans quelques instants. Quelques questions avant tout de même, Pierre Mathiot. Le président de la République a déclaré que l'ENA, endogame car socialement trop étroite dans son recrutement, devait être supprimée ou substantiellement réformée. Un rapport est attendu d'ici 6 mois. Est-ce une bonne idée ?
Bon, d'abord, je pense qu'il faudrait, si on parle de l'ensemble des grandes écoles de services publics, il faudrait peut-être interroger aussi l'école polytechnique ou l'école normale supérieure, puisque finalement, pourquoi on ne parle que de l'ENA, première remarque.
Deuxième remarque. Faut que vous le demandiez au président.
Oui, mais j'ai pas son 06. Et l'ENA en tant que tel a été créé, il faut jamais l'oublier. Pour rompre avec des logiques d'endogamie des recrutements précédents de la haute fonction publique, ça a très très bien marché pendant une période, ça a moins marché, ça marche un peu moins aujourd'hui, sur le concours externe de l'ENA, sur le concours interne de l'ENA, là on a un profil d'élèves de l'ENA qui est beaucoup plus divers, donc moi je suis d'accord avec le président de la République pour dire qu'il y a un vrai problème, disons, de diversification des profils sociaux, culturels, d'origine des élèves qui sont à l'ENA, c'est clair, mais de là à vouloir... supprimer l'ENA parce qu'on a ce problème à l'entrée, ça me paraît, disons, aller un peu vite en besogne. Et à mon avis, au final, on ne supprimera pas l'ENA. Il faut modifier substantiellement. Il faut s'appuyer plus sur les universités parce que là, pour le coup, on diversifierait plus. Il faut développer les CPI, donc les classes préparatoires intégrées, et en faire en région. Moi, mon école, on est volontaire, évidemment, pour le faire. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire pour, en effet, diversifier les origines sociales et culturelles des élèves à l'entrée. Mais on a besoin, dans notre pays, d'une école qui forme le mieux possible ou le moins mal possible ceux qui vont exercer des fonctions de responsabilité dans la haute fonction publique.
Je ne sais pas si vous l'avez lu, Pierre Mathiot, mais il y avait un article il y a quelques jours très intéressant du Monde qui racontait comment de nombreux proches d'Emmanuel Macron au gouvernement, à l'Assemblée, à la République En Marche, sont passés par la Kennedy School d'Harvard. Et je voudrais vous citer les propos de l'un d'entre eux, quand on lui demande pourquoi il a fait ce choix. Mon raisonnement était que l'ENA, c'était 1 à 2 ans de préparation sans certitude d'avoir le concours, puis 2 ans de cours, et vous pouviez ensuite vous retrouver au tribunal administratif d'une ville paumée. Voilà pourquoi il n'a pas fait l'ENA et pourquoi il est passé par Harvard. On va donc potentiellement remplacer une filière d'élite critiquée parce qu'elle est d'élite en France et de toute façon organiser l'échappement vers des filières d'ultra-élite de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est clair qu'il y a une mondialisation aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de ses filières les plus élitistes. La Kennedy School, c'est super de la faire, mais ça coûte horriblement cher, donc tout le monde ne peut pas la faire. Donc socialement, évidemment, ça renforcerait encore cela. Devenir haut fonctionnaire dans un tribunal administratif d'une ville paumée, je trouve que c'est très honorable et qu'il faudrait aussi que nos élites ne soient pas parisiano-centrées trop souvent, parce que ça pose problème. Hein. Je le dis, moi, en tant que provincial, étant passé par Paris, mais travaillant et vivant en région, comme on dit aujourd'hui, et pas en province. Voilà, il faut arrêter d'avoir cette approche en disant l'intérêt de faire l'ENA, c'est un, de le réussir absolument, et deuxièmement, de sortir dans la botte, c'est-à-dire de sortir dans les premiers, parce que si on n'est pas dans les grands corps, c'est la honte, et ça sert à rien d'avoir fait l'ENA. Je pense qu'il faut rompre quand même avec cette approche, pour le coup, très élitiste, vous avez complètement raison, de ce monde de la haute fonction publique.
Alors, dernière question, et puis Guillaume est au standard, la cause, donc, comme vous l'avez dit, de la diversification des parcours, notamment sociaux, à l'entrée des grandes écoles, est bonne, elle est noble, même, mais n'est-ce pas un petit poil opportuniste, voire populiste, de le faire, de lancer ça, ce débat-là, en ce moment?
Alors donc là, je reprends ma casquette de professeur de sciences politiques, si vous permettez. Je pense que annoncer la suppression de l'ENA, alors qu'au final, probablement, on ne va pas la supprimer, peut-être qu'au mieux, on en changera le nom. Et croire que cela va nourrir en quelque sorte la colère de ce qu'on appelle les gilets jaunes et qu'on va les calmer, qu'il n'y aura plus de manifestations et plus de ronds-points à occuper, je pense que c'est un peu, si je puis me permettre, un peu à courte vue. C'est naïf de penser que pour cette raison-là et cette seule raison-là, le mouvement social en cours va cesser.
Allez, Guy, Guillaume est au standard. Bonjour, vous nous appelez de Toulouse et vous avez la parole.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que, bon, alors Monsieur Mathieu vient d'évoquer les 40% de la note du bac qui seront donc délivrés localement. Ça va créer automatiquement une mise en concurrence entre les établissements et donc ça va ne faire qu'entériner les inégalités territoriales et sociales existantes. Ma question à Monsieur Mathieu, c'est est-ce qu'il pense vraiment que c'est ce dont ce pays a besoin ?
Merci Guillaume pour cette question. Pierre Mathieu vous répond.
Écoutez, dans le système, je me permets de repartir sur le système actuel. Est-ce que vous croyez, cher monsieur, qu'entre le lycée de centre-ville de Toulouse et un lycée qui éventuellement est au Mirail, à mon avis, il n'y en a pas, est-ce qu'il n'y a pas déjà des inégalités lorsqu'un élève d'un lycée de centre-ville candidate à une classe préparatoire et que c'est un élève d'un lycée de périphérie qui candidate? Est-ce que vous ne pensez pas que déjà, il y a des formes de stigmatisation et de classement des établissements? Voilà, donc malheureusement, le système aujourd'hui est déjà, et d'ores et déjà depuis très nombreuses années, un système qui classe les gens et qui classe les élèves.
Hein, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre une réforme, j'imagine que c'est ce que vous demande Guillaume aussi, que on change de
là
monde.
Encore, je vais prendre des exemples très concrets. Le ministre souhaite, et ça commence à se faire, évidemment ça se voit pas, mais d'affecter des spécialités attractives, notamment socialement attractives, si vous voyez ce que je veux dire, dans des lycées de périphérie. Le problème, c'est que pour faire cela, il faut qu'un professeur, par exemple, accepte de passer du lycée de centre-ville au lycée de périphérie. Vous comprenez? Pour aller dans le sens de cette égalisation des conditions. Or, un prof, évidemment,
prenez un exemple précis. Quand vous dites une filière attractive dans un lycée qui ne l'est pas, expliquez-nous.
Vous avez des filières autour, par exemple, si on prend humanité, lettres classiques, est une filière, à mon avis, qui va être attractive, parce que, pour plein de raisons sur lesquelles je passe ici, 24% des élèves là-dedans, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve. Eh ben, en général, vous le savez bien, les lettres classiques, le latin, le grec, c'est proposé dans les lycées de centre-ville, il faut quand même le dire, qui sont les lycées plutôt de la bourgeoisie des villes concernées. On pourrait imaginer sur le papier de dire cette spécialité-là, elle n'est pas proposée dans le lycée de centre-ville. Elle est proposée dans un lycée qui est à parfois 5 km, mais qui est un lycée un peu stigmatisé. Mais pour cela, il faut que l'enseignant qui est actuellement en centre-ville, et on va le comprendre complètement, on lui dise, vous allez aller enseigner dans le lycée à côté. L'enseignant a son service dans le lycée de centre-ville, il y fait sa vie, il y est plutôt épanoui. Pourquoi est-ce qu'il accepterait d'aller là-bas? Donc je veux dire qu'une partie des enseignants, quand on nous reproche de ne pas permettre l'égalisation des conditions sociales entre les établissements, il faut bien voir que ça supposerait qu'une partie des enseignants accepte de changer d'établissement.
Et en tout cas, ça c'est dans les tuyaux, c'est ce que vous dites.
Alors quand on regarde lycée par lycée, des spécialités vont être proposées dans des lycées, alors que la série correspondante n'était pas proposée. Humanité, je reviens là-dessus, va être proposée dans des lycées où aujourd'hui il n'y avait pas de bac L, par exemple.
Fabrice est au standard, Meudon-la-Forêt, bienvenue.
Oui, bonjour à tous et un grand merci pour vos émissions.
Merci à vous.
Que j'écoute depuis de nombreuses années. En fait, donc voilà, moi j'ai un fils qui est en seconde, qui fait partie de ces moins de 50% et finalement a lors des choix à avoir reconstitué l'ancien bac S. Mais le problème, c'est qu'on lui demande de faire des choix alors qu'il ne connaît pas les métiers à venir, les métiers de demain. Avec un peu de chance, je sais qu'il voulait aller vers la partie de création de jeux vidéo, donc je l'ai emmené dans une école qui faisait ça, et là on a découvert plein de métiers, mais alors dont il n'avait absolument pas de connaissance. Ma question, c'est que va faire le lycée pour faire en sorte qu'à l'heure du choix, nos enfants aient une meilleure vision des métiers de demain?
Merci voilà. Fabrice pour cette question. Pierre Mathieu, vos réponses.
C'est une très bonne question. Après, les études ne conduisent pas nécessairement à des métiers. Je vais dire ça de manière un peu iconoclaste ce matin. Les études au lycée, c'est aussi se doter d'une culture générale, une culture civique, une culture citoyenne. Le métier, ça reviendra après. Beaucoup de métiers, d'ailleurs, auxquels on prépare aujourd'hui, les métiers n'existeront plus demain. Regardons certains métiers, même liés au journalisme, si je puis me permettre. Donc, pour monsieur qui nous écoute, le ministère a développé un site qui s'appelle Horizon 2021, qui est un site qui justement fait le lien entre les spécialités et des possibilités de poursuite d'études et de métiers. Donc, ce site existe et c'est vrai que malheureusement, il n'est pas assez connu. Donc, il y a peut-être des trous dans la raquette en termes de com de la part du ministère, mais ça va se régler. Et puis après, évidemment, ça pose la question, disons, du lien immédiat entre tel type de spécialité qu'on choisira en première et tel type de débouché d'études, puis de métier. Mais bien sûr, il y a des choses à améliorer. Dernière chose que je voulais dire, c'est un enjeu, ça peut être une question, c'est que on n'a pas parlé tout à l'heure. Dans la réforme, il y a un enjeu sur lequel il faut qu'on soit bon. J'espère qu'on le sera. C'est sur les 54 heures d'accompagnement des élèves.
Absolument. Est-ce que c'est en train de se mettre en place l'orientation, l'accompagnement?
Voilà. Donc là encore,
on est dans le flou là.
Là encore, ça existait et c'était pas tout à fait entre nous hyper satisfaisant. Ça c'est prévu dans les emplois du temps annuels des lycées en première et en terminale. Je pense que c'est un enjeu majeur. À titre personnel et là de façon tout à fait indépendante, je dis que si nous ratons cet aspect-là de la réforme, nous allons manquer une partie des enjeux que nous souhaitions réaliser.
Christine est au standard. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, merci de me prendre en ligne. Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Alors voilà, moi ma question c'est, donc je suis professeur des écoles d'une part, donc je connais quand même un petit peu l'environnement, ma fille est en seconde et doit aussi faire face au choix des spécialités, donc j'ai une question générale déjà, c'est Quel est l'objectif de cette réforme? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Pourquoi vous réduisez les heures de mathématiques en seconde et en première, et ce, à tous les niveaux, hein, quel que soit ce que l'on choisisse en spécialité ou en tronc commun? Et aussi, pourquoi les élèves doivent-ils choisir 3 spécialités en seconde, déjà difficile, et pourquoi doivent-ils supprimer une spécialité en première?
Merci Christine pour cette question. Pierre Mathieu.
Alors j'essaie de répondre à tout, je commence par la fin, comme c'est pivot. 3 puis 2, parce qu'en terminale, on met plus d'heures, c'est une logique de spécialisation progressive. En terminale, on passe quand même de 4 à 6 heures de spécialité. Donc si on avait maintenu les 3 spécialités, on avait un volume horaire hebdomadaire des élèves qui était au-delà de 30-32 heures par semaine. Et là, on aurait eu des questions ce matin d'auditeurs nous disant, on demande aux jeunes de travailler plus pratiquement que les adultes. Donc il faut faire des choix par rapport à cela. S'agissant des mathématiques, en seconde, ça ne bouge pas. En première, il y a des choix aussi, évidemment, qui sont faits, d'un enseignement scientifique et pas de mathématiques dans le tronc commun. Ensuite, des mathématiques, et je rappelle quand même, en terminale, il y aura une option mathématiques expert ou mathématiques complémentaires, ce qui fera qu'un élève qui sera vraiment motivé vraiment par les mathématiques pourra en faire 9 heures par semaine, ce qui, je pense, sera de bonne facture. Madame, son enfant est en seconde, il faut aussi l'assumer. C'est une année de transition. Et c'est vrai que déjà l'année prochaine, ça ira mieux parce que très simplement, les élèves qui entreront en seconde l'année prochaine sauront dès leur entrée, et d'ailleurs ils le savent maintenant, ce que les lycées de leur secteur proposent comme spécialité. Cette année, comme c'était la mise en œuvre, ça n'est arrivé qu'en janvier, et je pense que ça a un petit peu accéléré ou accentué le stress d'une partie des parents, ce qui est complètement normal.
En tout cas, ce qui est étonnant, Pierre Mathieu, c'est que vous êtes très blanquerien, voilà, je le dis, que ce soit sur l'inquiétude que peuvent éprouver les élèves, que ce soit sur la reconstitution de la filière, est-ce que ce soit sur la régionalisation du bac et donc la disparition de la dimension nationale du diplôme, pardon, vous êtes assez droit en vos bottes, hein.
Dans quel sens?
C'est-à-dire vous à toutes ces inquiétudes, vous répondez c'est normal, c'est pas très très grave, c'était un peu comme ça avant, c'est une année de transition. Vous voyez pas de problème majeur en fait dans la manière dont cette réforme est reçue publiquement.
Vous m'avez écouté là, j'ai quand même évoqué évoqué la question des heures de d'orientation et d'accompagnement des élèves en disant que c'était un enjeu, donc je crois que je l'ai dit de manière évidemment un peu elliptique, mais pour dire que j'avais quelques inquiétudes, de dire qu'évidemment dans certains endroits des options qui étaient proposées ne le seront plus, et que donc évidemment il y a de la frustration. Non, je veux dire, comme j'enseigne les politiques publiques, je veux dire que il est complètement normal quand une politique publique qui produit des changements structurels se met en place, il est normal que les usagers de cette politique publique soient déçus, inquiets, stressés, et qu'il y a un temps de mise en œuvre de ces politiques qui va se mettre en place. Voilà, c'est tout.
Donc attendons.
Oui, mais on va ajuster. Vous savez, l'éducation nationale, je veux pas être trop long parce que l'émission est courte, on va vite. Mais l'éducation nationale, on a l'impression que c'est une espèce de moloch, vous savez, mais en permanence, on ajuste et on adapte. Je vais même me poser exprès les programmes. Certains programmes sont contestés, sont critiqués. Je sais pas, le programme de maths qui serait trop dur. Moi, vu mon niveau en maths, je peux pas trop en juger. Mais il va de soi que le ministère n'arrête pas d'ajuster les choses. Et je suis convaincu qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire dans les années qui viennent, même dans les mois qui viennent, sur une certain nombre de choses. Parce qu'on a le droit de reconnaître, et moi je le reconnais complètement, qu'on a pu se planter ici ou là, oublier des éléments ici ou là, se rendre compte que certaines choses étaient très compliquées à mettre en œuvre et ajuster le système.
Sur l'application France Inter, Monsieur Mathieu pourrait-il enfin reconnaître ouvertement que la réforme du lycée relève de choix purement idéologiques et prépare à terme une privatisation de l'enseignement scolaire? Merci.
Je veux dire, la privatisation de l'enseignement scolaire, elle est en partie en train de se faire, souvent à cause de carences que l'on prête à l'enseignement public, qui fait que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans l'enseignement privé. Donc la privatisation, elle est à l'œuvre, et parfois du fait, il me semble malheureusement, et je suis un grand fervent de l'enseignement public, on ne me prendra pas en tort là-dessus, du fait d'insuffisance perçue par les parents, perçue parfois pas réelle, de l'enseignement public. Après, je ne pense pas qu'il y ait d'attendu, en tout cas moi je ne pense pas être un ultra néolibéral fou. En revanche, je pense que dans l'opposition à la réforme, c'est souvent une opposition qui est présentée sous l'angle de la défense des pauvres ou des démunis. Je pense que c'est aussi parfois une opposition, allez, je vais oser le mot, un peu conservatrice, de personnes qui ont peur d'un nouveau système parce qu'il bouleverse leurs habitudes professionnelles.
Merci Pierre Mathieu, directeur de l'IEP de Lille, professeur de sciences politiques. C'était très intéressant hein, de faire le suivi de cette réforme, et on aura, j'imagine, l'occasion de vous revoir
avec plaisir.
À ce micro puisque là c'est la toute première mouture. Absolument.